Merci à Nicolas Martin de nous délivrer sa revue de presse avec un genre musical autre, puisque Anti-Système, Tu perds ton sang-froid, je crois que ça n'était pas du rap. Et c'était pourtant, un peu antérieur.
On n'est pas si loin. Hein. Repense à toutes ces années de service, Guillaume Lassuite. Vous connaissez
cette
votre
grosse
trust sur le bout des doigts, non ?
Oui, je le crains.
Et oui,
mais
Antisocial,
je ne
bientôt
pas.
Les années de sévices, enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Je ne vais pas vous faire tout le morceau. C'était ma maigre contribution, en tout cas, à la fête de la musique aujourd'hui, parce que ce n'est pas tant d'antisocial, de trust, donc que vous aurez bien évidemment reconnu à force de le chanter tous les matins avant d'aller manifester contre la loi travail, que d'antisystème dont il est question dans vos journaux ce matin suite à l'écrasante victoire de deux candidates du mouvement 5 étoiles en Italie à la mairie de Rome et de Turin, entre autres, pour ne parler que des grandes villes, puisque le M5S l'a emporté dans 19 des 20 villes dans lesquelles il était présent au second tour. Alors comment qualifier ce mouvement fondé par l'humoriste Beppe Grillo ? C'est là où la presse française hésite sur les mots, anti-système donc, mais protestataire, populiste, eh bien on ne sait pas très bien. Alors à défaut de pouvoir le définir précisément, l'édito du Monde a choisi de multiplier les qualificatifs. Le mouvement protestataire, et d'un, 5 étoiles, est entré dans l'âge adulte. C'est une percée significative pour une formation qui se veut résolument anti-élitiste, et de deux, un tantinet anti-européenne, trois, et cultivant volontiers des accents populistes, et de quatre, cette victoire de la protestation, comme le disent les quotidiens transalpins, est le signe de la mutation de cette formation ni droite ni gauche. Alors comme toujours, s'il est difficile de définir par l'assertion, il est plus facile de définir par la négative, par la négation de ce qui n'est pas. En l'occurrence, Libération résume ses victoires par le titre « Le sacre du tout sauf Renzi ». Ah. Voilà, le scrutin de dimanche a marqué les limites de la stratégie Renzi, alors que celui-ci comptait s'adresser aux électeurs de droite pour faire barrage au M5S. Ceux-ci semblent avoir choisi au deuxième tour les candidats de Beppe Grillo pour faire tomber les candidats du Parti démocrate. Ce dont Maud Verniol se félicite dans son édito dans l'Humanité. Et une de plus, serait-on tenté de dire, écrit-elle, après la gifle électorale infligée au Parti démocrate de Matteo Renzi, qui vient confirmer la lente agonie d'une social-démocratie noyée dans le marigot ultra-libéral. Partout en Europe, les partis socialistes qui ont fait le choix de la rupture avec le progrès social, abandonnant toute volonté de partage des richesses pour imposer des reculs sociaux par la force, ont été sanctionnés par les urnes. Ce qui n'empêche le journal de s'interroger dans ses colonnes sur l'identité politique de ce mouvement M5S. Que défend le parti de Beppe Grillo ? Lirez-vous page 10 de l'Humanité ? Et à cette question, eh bien, les réponses sont plus troubles. Il est vrai que le M5S use d'arguments faciles et parfois démagogues, écrit Gaël de Santis. Pire, les dirigeants du M5S prennent soin de ne pas froisser la droite. Un tiers de leurs sympathisants viennent du camp conservateur. Cela conduit Beppe Grillo à tenir des propos ambigus concernant l'accueil des réfugiés qu'il faudrait soumettre à un examen médical pour vérifier qu'il ne soit pas porteur du virus Ebola. Cela a conduit le M5S à siéger parmi les bancs ultra-conservateurs au Parlement européen, aux côtés des xénophobes du parti de l'indépendance du Royaume-Uni de Nigel Farage, même si, précise l'article, au niveau local, le M5S est très souvent animé par des citoyens de gauche qui revendiquent l'héritage social de l'ancien secrétaire général du Parti communiste italien.
Alors il y a pourtant un mot magique, c'est le mot anti-système.
Et oui, un mot qui sert de vademécum en politique dans une grande partie des sociétés occidentales. C'est ce mot, donc anti-système. C'est Jean-Marc Vittori qui l'analyse justement dans les colonnes des Échos. L'opposition au système est en passe de devenir la ligne d'une fracture dominante dans toutes les vieilles démocraties. Jean-Marc Vittori met dans ce vaste panier des tendances et des noms aussi divers que Donald Trump, Marine Le Pen, le M5S, Podemos et Ciudadanos en Espagne. Anti-système, ça ratisse assez large, mais ce que le chroniqueur décrit surtout, c'est la faillite du système en place contre lequel il est bon de se dresser. Le système ne tourne plus rond et il est donc logique de se révolter contre lui, d'autant plus que la crise que nous traversons depuis près d'une décennie se traduit par un cocktail ravageur de deux doutes profonds. La croissance et l'activité vont-elles repartir et les inégalités vont-elles continuer à s'accroître ? Sur ces deux doutes, les gouvernants actuels n'offrent ni vision ni réflexion, et encore moins à des générations biberonnées à la certitude d'un avenir meilleur. Et pour enfoncer le clou, l'usure du politique va encore plus loin. Les représentants du peuple sont de plus en plus des professionnels de la représentation, éloignés de leur mandant. Les électeurs, de mieux en mieux formés, ont de plus en plus de mal à reconnaître leur autorité et leur légitimité. Voilà pour le constat.
Des électeurs de mieux en mieux formés, ce qui ne veut pas dire de plus en plus intelligents.
Eh bien, c'est une information assez inquiétante, figurez-vous, Guillaume, que j'ai trouvée dans les colonnes du Monde. Le QI moyen en France aurait perdu près de 4 points en 10 ans. Entre 1999 et 2009, à ne rapprocher d'aucune courbe électorale récente, c'est Stéphane Foucart qui s'en inquiète dans sa chronique. Or, c'est d'autant plus inquiétant que d'une part, c'est la première inversion de la tendance séculaire qui voit augmenter régulièrement l'indice d'intelligence individuelle, et que d'autre part, s'il s'agit d'une étude qui ne concerne pas que la France, mais aussi de nombreux pays occidentaux, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Australie, la Suède ou la Finlande. Alors à quoi tient ce recul inédit de nos compétences cérébrales ? Eh bien, il semblerait, selon Stéphane Foucart, qui cite plusieurs études à ce sujet, qu'il soit dû à notre environnement direct, la perturbation du système hormonal par une multitude de substances présentes dans notre environnement domestique ou dans la chaîne alimentaire, peut accélérer la construction de certaines structures cérébrales, notamment au cours de la période intra-utérine. Or, la semaine dernière, Bruxelles vient d'enterrer de facto une méthode de recensement des principaux perturbateurs endocriniens qui aurait permis de les retirer du marché. Si le lien donc entre perturbateurs endocriniens et recul des facultés cognitives est avéré, nous n'aurions donc pas fini de nous abêtir collectivement. Voilà donc une raison supplémentaire, s'il vous en fallait une, de faire travailler vos petites cellules grises et de rester branchés jour et nuit sur France Culture, bien entendu.